contrat résidence qui a été développé en 2020 par les ateliers Vortex et l'entreprise SMT Rotarac, dont on a aussi rappelé le directeur Patrick Aubry. Et le point de départ de cette résidence en entreprise, c'était de permettre à un artiste de bénéficier, d'explorer un ensemble de rebuts industriels générés par l'usine. L'usine qui est spécialisée, dites-moi si je me trompe Patrick, mais dans tout ce qui est production de réseaux de mise sous pression de gaz.
Tout ce qui est vanne, régulation et détente.
Voilà.
Pour ceux qui ne sont pas techniques, la détente en fait consiste à un gaz à une pression et de le rendre à une autre pression. Donc si vous avez par exemple un réseau 400 bars, vous mettez une vanne de détente qui va le rendre à 200 ou 50 bars par exemple.
Donc Antoine a passé 3 mois au sein de l'usine SMT Rotarex qui se trouve à Genlis et c'est à l'occasion de cette résidence qu'il a produit l'ensemble des pièces qui sont exposées aujourd'hui aux ateliers Vortex, en sachant qu'il a donc bénéficié à la fois de cette ressource matérielle que sont les rebuts industriels, mais aussi de l'échange et du savoir-faire qu'il a pu, du savoir-faire des salariés avec qui il a eu l'occasion de collaborer, de réfléchir, de travailler. Et donc Antoine voilà, expose aujourd'hui, comme je le disais, les fruits de cette production. Et on l'a invité, chaque artiste qui expose aux ateliers Vortex, à lui-même être à l'initiative d'une invitation, d'une personnalité qui soit extérieure au monde de l'art, mais dont les préoccupations soient communes avec des éléments d'intérêt. Et donc Antoine a fait le choix d'inviter Robert Kaussmann, qu'on remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Et peut-être que je peux vous laisser tous les deux vous présenter et puis Antoine expliquer la nature de cette invitation.
Bonjour à tous. Moi je suis très content que Robert Kaussmann soit venu parler un peu de son travail et de son livre aussi, sorti d'usine. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en fait dans toute cette histoire de perruque. Je trouve qu'en fait, il y a une créativité très forte. Des gens qui, il y a des exemples d'objets qui ont été faits créativité. J'y vois aussi un peu une forme de résistance aussi à l'ordre et à l'entreprise et enfin je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la création, souvent, bon, pas tout le temps, mais qui a un rapport avec la création, mais qui est ça veut dire pour moi, ça représente aussi créer hors du champ de l'art, quoi, dans la vie de tous les jours et hors de l'artiste professionnel dans cette idée que tout le monde est d'artiste aussi.
Peut-être qu'on quelque peut définir part. Ce que c'est que la perruque pour...
La perruque, vas-y Robert.
Il va se faire un plaisir de tricher.
Oui, on discutera des frontières de l'art et de besoin de créer de tout un chacun. Je pense que quand c'est un métier comme celui d'Antoine, c'est un artiste. Quand c'est légal, enfin semi-légal ou totalement illégal, comme ce que je fais, ça s'appelle de la perruque, mais chacun, tout le monde a besoin de créer. Les gens qui font du tricot, ils créent, les gens qui font un clafoutis, ils créent, les gens qui font des recettes de cuisine, ils créent, les gens qui tricotent pour leurs petits-enfants, ils créent. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui avait dit ça dans un débat. Je pense que c'est quelque chose de profondément humain. Alors je reviens à mon sujet qui est celui que je connaisse. La perruque, c'est la définition que j'en donne, c'est l'utilisation de matériaux et d'outils par un travailleur sur le lieu de l'entreprise pendant le temps de travail à des fins personnelles. Donc ça le différencie d'un artiste qui peut travailler dans l'entreprise. Antoine est un peu à la frontière, mais qui le finalise en dehors et qui le vend. Or, la perruque, ça ne se vend pas. La perruque, c'est pour soi. c'est quelquefois créatif, on va le voir, mais c'est la plupart du temps pour réparer une chaise qui est cassée, un manche de poêle qu'il faut ressouder, ou une barrière de jardin à rétablir. Alors je vais montrer rapidement les quelques objets que j'ai amenés et que j'ai apportés. Donc ça, c'est des vis et des écrous.
Qui sont faites par Robert.
Voilà, que j'ai pu faire chez Renault. J'étais fraiseur chez Renault et j'ai fait un petit bonhomme qui lève le poing, ça va assez vite. Ça, c'est un copain à moi qui l'a fait chez Renaud Billancourt quand il a eu sa première fille. Il a fait un petit landau en soudant de la ferraille. Ça peut ressembler à ce que fait Antoine. Ça, c'est sans surprise des jeux pour jouer au 421, mais ils sont en acier et c'est déjà un peu plus de temps parce que il faut que ce soit assez régulier, donc c'est avec des machines modernes, avec une machine à pointer. Ça, c'est déjà nettement plus compliqué. C'est un éléphant en alu, et donc c'est en 13 pièces, et donc c'est un casse-tête à monter, redémonter. Et donc la clé, c'est les oreilles pour bloquer le... Donc c'est quand même, en dehors du sillage que j'ai fait, des copains qui ont fait le fraisage, c'est plus de 40 heures d'usinage. Hein. Alors, c'est pas un avion de 8 ans, mais c'est 40 heures d'usinage. Et puis, il n'y a pas que les hommes qui font de la perruque. Les ouvrières en font aussi. Bata, qui était une usine de chaussures dans l'est de la France, avec des bouts de cuir, ils les ont découpés. Et puis, juste avec une épingle, ça fait une petite vache. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la perruque, très 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 vite, parce que j'ai un quart d'heure, sans ça on ne s'en sortira pas. En 1990, 28% des ouvriers affirmaient dans une enquête INSEE l'avoir déjà pratiquée, sachant que c'est quand même essentiellement les ouvriers professionnels. Pour les OS, on a des exemples, mais c'est plus difficile de faire de la perruque quand on est avec des contraintes de temps. Les gens qui sont à l'outillage, par exemple, ils ont toutes les machines comme... Antoine, il a pu pratiquer et ils ont des délais moins durs à tenir. Elle n'est jamais payée, c'est très important, et elle est différente. Alors, dans l'usine, dans une entreprise en général, il y a différentes formes de transgression. Il y a du vol, et je n'ai pas de point de vue moral là-dessus. Je dis ça existe. Il y a des sociologues qui ont étudié la question, depuis le PDG jusqu'au vigile. Dans les supermarchés, les gens qui volent, il y a du sabotage qui est rare, il y a du coulage qui est le plus fréquent, c'est-à-dire qu'on prend son temps pour travailler, ou du travail au noir, c'est-à-dire qu'on fait des objets pour les revendre à l'extérieur. Et je différencie tout à fait ça de la perruque, parce que pour nous, perruqueurs, c'est quelque chose de gratuit. On ne fait pas ça pour l'argent. Alors, pour travailler un peu sur l'histoire de la perruque, en souriant, le premier indice qu'on retrouve, c'est en moins 1190 en Égypte, sous le règne de Ramsès III. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé avec de l'argent, qui ont été en Égypte, il y a un village d'artisans ouvriers, qui s'appelle Deir el-Médineh, qui est à côté de la vallée des rois, et les ouvriers artisans décorer les tombes du pharaon. Et puis il y a un contremaître, là c'est un contremaître qui a pris la décision, au lieu d'envoyer son équipe, c'est une équipe de 11 personnes je crois, décorer la tombe du roi, et a fait décorer sa propre tombe à lui, et il a emmené ses ouvriers travailler pour lui. Et puis ça s'est su, il était condamné, et en Italie il y a le procès, il y a un script qui a tout noté, la transformation du travail. Et la seule chose qui manque, c'est le jugement. On ne sait pas s'il était condamné, mais enfin, il n'a pas dû être félicité. Ensuite, si on saute dans le temps, on a une ordonnance de Colbert, ministre de Louis XIII, en 1674, qui interdit de sortir de l'arsenal de Brest, en l'occurrence, avec du matériel. C'est-à-dire que dans les arsenaux, il y a des conditions de travail qui étaient plus de tout temps plus faciles, moins dures que dans le privé. Et il y avait beaucoup de perruques qui étaient faites. Et Colbert est extrêmement précis. Il dit qu'il faut quand même produire plus de bateaux pour Sa Majesté que pour la promenade ou la pêche. Donc ça devait avoir une ampleur extrêmement importante. Et puis, en 18e en Angleterre, au 18e siècle en Angleterre, défini comme un crime social, au 19e, les patrons, il y a des textes qui protestent contre les ouvriers qui fabriquent leurs outils. Aujourd'hui, les outils, ça s'achète, mais à l'époque, ça se fabriquait soi-même. Et puis, moi, ce que j'ai pu étudier, c'est au 20e siècle, une des grosses perruques qui a été faite au 20e siècle, c'est, plus les années en tête, c'est les années 70, quand Canal Plus a commencé avec ses décodeurs. Et donc, là, tous les gens qui travaillaient dans l'électronique ont fabriqué des centaines de décodeurs pirates Canal Plus. Donc, tous les camarades qui travaillaient dans l'électronique, ils ont un souvenir très ému, très précis de ça. Et puis, l'Alstom, la Snecma, la RATP, Renault, il y a eu beaucoup de perruques de fait, y compris, alors j'ai pu interviewer des gens qui travaillaient dans les métiers les plus qualifiés ou réputés les mieux plus qualifiés de l'industrie, c'est-à-dire les facteurs d'instruments. Il y a une boîte qui s'appelle Marigot, qui est le principal fabricant de hautbois pour toute l'Europe. Et donc les gens, ils font de la perruque, et comme c'est souvent le corps était en ébène, ils se faisaient leur propre tournevis avec un manche en ébène, qui est quand même plus agréable de travailler avec du plastique. Et puis, donc je disais que c'était surtout une fonction, là, c'est une fonction pratique, soit faire des outils, soit réparer des objets. Elle est souvent tolérée, mais pas toujours. Et mon idée, si elle est aussi répandue, c'est qu'elle est impossible à empêcher. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règlements les plus drastiques, les plus durs. Il y a toujours dans le travail, c'est pas une machine, un être humain, il y a toujours des interstices. Il y a toujours des moments où le chef il n'est pas là, il y a toujours des moments où on est tranquille, même si on a une cadence élevée. Donc dans ces interstices, ça peut être 3 minutes pour travailler pour soi. Et les gens qui ont une qualification, un ouvrier professionnel, c'est 3 ans d'études, et chez Renault, il y a 2 ans supplémentaires, ont 5 ans d'études. Quand on leur fait faire des conneries pour, je m'excuse du terme, mais pour fabriquer des bouts d'ailes de bagnole sans savoir même où ça va aller, ils ont envie de faire des choses pour eux, voilà, de créer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a besoin de création. Et puis, dans une usine, c'est pas. Même dans un camp de concentration, il y a des transgressions, il y a des exemples, on ne va pas parler de ça, c'est triste, mais même s'il y a une maîtrise, je l'ai vécu, elle peut être radicale, il faut vivre ensemble, on ne peut pas être en guerre, ouvrier et maîtrise pendant 30 ans, 8 heures par jour. Donc il y a des tolérances qui permettent de faire de la perruque souvent, pas toujours. Donc pour les métiers, c'est les verriers ont fait beaucoup de lampes à pétrole à l'époque, au 19e, lampes à pétrole, il y en a eu beaucoup faites chez les verriers. Il y a même un seul musée de la perruque en France, c'est dans le nord de la France, à Sarpoterie, où il y a la moitié des objets sont des objets de perruque. Et puis, donc je disais, les hommes, les femmes en font autant, hein, tous les exemples qu'on a. Souvent dans les grèves, c'est une extension de la perruque. C'est-à-dire quand une usine était en grève, elle était sur le point de fermer, c'est le point, pas loin, ici à Saint-Claude, de MBF, où il y a des camarades qui travaillent. Il y a un temps de latence où les gens veulent populariser la grève. Et souvent, ils font des objets pour montrer leur savoir-faire. Et bon, par exemple, dans la couture, il y a des gens de la CGT qui ont fait des costumes qu'ils ont offert à Henri Krasucki à l'époque où il était secrétaire de la CGT. Je ne trouve pas très beau, mais c'est un jugement de valeur. Bon, il y a des choses plus originales. Il y a un réservoir qu'une amie à moi qui est ergonomique, c'est-à-dire que c'est un réservoir en tôle qui a une forme courbe qui permet de le mettre dans le dos avec une courroie devant, et on, si on met la veste par-dessus, eh ben on peut sortir sans être pris par le contrôle.
Bon, alors c'est sortir vraiment de l'essence.
Comment ?
Sortir de l'essence, sortir de l'entreprise. Alors,
sauf qu'à une époque, c'était pour l'huile de boîte était chère. Après, le collègue qui a fait ça, il sortait de l'essence. Et on peut mettre, je ne sais pas, moi, 3-4 litres maximum là-dedans. Il s'est fait choper, la gendarmerie est venue le prendre et il était sanctionné. Pour 3 litres d'essence, ça ne valait pas le coup. Mais je pense que c'est plutôt le plaisir d'avoir fait un réservoir ergonomique qu'autre chose. Bon, il y a des choses exceptionnelles. Le salon de réception du syndicat des cheminots anglais à Derby a été fabriqué entre 1870 et 1910. Dans le bouquin, c'est des fauteuils capitonnés. C'est assez extraordinaire. À l'époque, il y avait des trains de luxe. Hein. C'était comme l'Orient Express. Et donc, c'est une table magnifique. Et il y a 12 chaises et le fauteuil du président. Et il sert toujours pour la réception. Il y a une moto entière qui a été faite LRATP, une locomotive à vapeur réduite au 1/20 qui fonctionne, et puis le top du top, c'est de la perruque quand même, un Air France, quelqu'un a mis 10 ans de fabrication, je disais 8 ans, un monomoteur, réinterprétation d'un avion des années de l'entre-deux-guerres, et le collègue s'est fait prendre en photo, on le voit dans son avion, et il a immatriculé perruque. Voilà. Et il y a des entreprises comme Air France ou la RATP, pour ne citer que celle-là, où la perruque, elle est largement autorisée. Elle est, voilà. Puis il y a des endroits comme chez Nina Ricci pour les femmes, elle est strictement interdite, c'était impossible. Et puis il y a des gens qui ont été licenciés pour avoir fait un barbecue. Et puis voilà, il y a ce que j'ai appelé l'ambiguïté de la perruque, c'est ça. Elle est à la fois interdite. Tous les règlements, et un sociologue qui a travaillé sur le règlement, tous les règlements interdisent la perruque d'entreprise. Mais ça veut dire que si on l'interdit, c'est qu'elle existait. Quoi, voilà. Donc elle était très répandue. Et je crois que c'est chez Peugeot à Montbéliard que je me souviens, le nom de la patronne ne me revient plus. Mais chez Schneider. Non, c'était au Creusot, pardon. Non, c'est. Alors, je ne sais plus. C'est où au Creusot où, je retrouverai. Elle disait, il faut arrêter dans les années 1950, il faut arrêter de faire des batteries de cuisine, et il faudrait plutôt travailler pour l'entreprise. Voilà. Bon, je vais laisser tomber sur les sociologues et les historiens qui ont travaillé là-dessus, parce que c'est pas là-dessus, on n'a pas le temps. Il y a eu des alors, depuis 20 ans, en gros, la perruque est sortie un peu de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui avait fait une exposition à Saint-Étienne de Verrier, et le patronat a envoyé un huissier, enfin le CNPF à l'époque, c'était pas le MEDEF, a envoyé un huissier pour noter ce qui était fait. Et donc les collègues l'ont reçu très gentiment, en lui disant « on va vous faire visiter ». Et il était avec son carnet, il dit « mais qui c'est qui a fait ça ?» On va vous le dire, monsieur, c'est de la perruque. Et bon, quand il a vu que tout le monde se foutait de sa gueule, il est reparti furieux. Mais moi, j'ai fait une petite expo en Seine-Saint-Denis, et le MEDEF, à ce moment-là, a demandé l'interdiction au Conseil général. Alors, on avait l'autorisation du Conseil général. Il ne l'a pas eu. Voilà. Mais voilà, c'est toujours pour montrer cette ambiguïté. Mais il y a au moins 5-6 expositions qui ont été faites en France, dont une à Pouglézo, qui a quelque chose qui ressemble à Vortex peut-être, où il y a eu des présentations de perruques. Bon, alors, après on pourra avoir un débat sur toutes les déviances ne sont pas des perruques, je l'ai dit, sabotage, coulage, travail au noir, absentéisme volontaire, tout ça c'est des déviances mais dans l'entreprise, mais c'est pas la perruque. Et puis toutes les perruques ne sont pas déviantes, j'ai dit, elle est souvent, parfois, on ne sait pas, tolérée. Utilitaire ou créative, je dis qu'elle était souvent utilitaire, mais bon, ces choses-là sont plutôt des choses créatives. Artistique, c'est un débat qu'on a avec Antoine. Et puis, j'ai pu étudier un peu la perruque dans les bureaux, puisqu'il y a quand même beaucoup maintenant de travailleurs qui sont techniciens, qui sont dans les bureaux, on en fait aussi. Hein, c'est pas la même, mais on utilise le temps de travail, au moins, des enquêtes au moins une heure par jour, au moins une heure par jour, pour consulter ces messageries, faire du travail pour soi. Quoi, voilà. Après, c'est pas la même chose exactement, parce que les parents d'élèves, par exemple, ils font leur photocopie au bureau. Il y a tout un tas de choses qui sont fabriquées dans l'entreprise. Mais j'ai pas pu travailler longtemps. Alors, les GAFA, les grandes entreprises, ont compris ce que je viens de dire depuis peut-être avant moi. Et Google, par exemple, en 2006, accordait à ses ingénieurs 20% du temps de travail pour réaliser des projets personnels sous la direction de superviseurs et en lien avec l'entreprise. En 2012, Tim Cook, le patron d'Apple, permettait aux concepteurs de travailler 2 semaines par an pour réaliser des projets personnels à Cupertino dans la Silicon Valley. Alors, c'est vrai pour une partie des personnels, les plus qualifiés, mais c'est les ordinateurs, les smartphones que tout le monde a ici, les Mac, les iPhones, les iPads, les gens qui travaillent en Chine pour les fabriquer, ils sont 400 000 travailleurs. Chez Foxconn en Chine, ils ont pas de on ne leur permet pas d'avoir de la créativité. C'est vraiment des petits créneaux. Et puis, comme toute chose aujourd'hui, il y a une marchandisation de la perruque qui a été tentée, mal à mon avis, et tant mieux. Par exemple, les objets de tranchée, ce n'est pas de la perruque, mais les objets de tranchée qui ont été faits par centaines ou par milliers pendant la guerre de 14, aujourd'hui, sont en vente sur Internet. Ils n'étaient pas faits pour ça, ils étaient faits pour les familles. Bon, on trouve deux marmites de mariage en fonderie, avec le nom des époux qui ont été faits en 1905 et en 1909, qui sont en vente sur Internet. J'en ai parlé avec Antoine, un artiste reconnu qui s'appelle Jean-Luc Moulin, a fait des photos de perruques et il les vend 7 500 € la photo, parce que cher, mais on rentre dans le marché de l'art. Il a fait 39 objets de grève, donc 39 photos comme ça. Donc je reviens sur ce que j'ai terminé. Oui, je suis presque dans les temps, ça va. L'idée, c'est quand même la réappropriation d'un savoir-faire, un travail qui n'est pas toujours passionnant. Hein. Les marxistes disent aliéné, mais moi j'étais sur une scie à ruban et je faisais des bouts de carré, des rectangles en ferraille sans qu'on me dise à quoi ça servait. En toutes les épaisseurs, entre 0,5 et 12 mm, c'était ça mon travail. Donc j'avais envie de faire autre chose. Quoi. Et c'est vrai pour tous les ouvriers. Je disais, il y a des interstices dans le travail, il y a vivre ensemble. Et ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, c'est impossible de l'empêcher parce que c'est les hommes ne sont pas des machines et on ne peut pas leur imposer un temps de travail absolu, 8 heures ou 7 heures par jour. Je suis dans les temps.
Okay.
Est-ce que vous seriez d'accord, Robert, qu'on fasse passer le...
Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit ce bouquin l'an passé, il y en a...
Le faire circuler... Il est en vente, bien sûr, à 12 euros. Et c'est ce qui me reste. Et l'intérêt, c'est que je n'ai pas de responsabilité, l'éditeur a mis beaucoup d'illustrations. Donc, c'est pas un bouquin de socio-chiant, même si il y a des références à la sociologie. Mais il y a beaucoup d'illustrations, donc on voit concrètement ce qui a pu être fait en perruque, aussi bien en perruque, faire un marteau, tout simplement, pour faire un avion qui est plus long à faire. Voilà. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé.
Donc, sinon, c'est la raison pour laquelle j'ai invité Robert, et du coup, qui est venu avec Emmanuel, et je suis ravi. C'est aussi que il a un passé donc de syndicaliste et qu'il connaît très bien l'histoire ouvrière en fait en France, peut-être en Europe, ça, je ne sais pas. Mais il connaît très bien et cette question de la mémoire de l'usine et de ce travail, moi ça m'intéresse vraiment. Je trouve que c'est un point hyper central quoi, dans notre monde d'aujourd'hui en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on se fait un peu cette idée qu'on est dans une société post-industrielle qui serait où le futur est fait de gens qui travaillent dans les services, plein d'artistes aussi. Mais en fait, on est dans une société qui est toujours aussi industrielle, quoi. C'est-à-dire que c'est juste tout ce qu'on voit maintenant, c'est fabriqué dans d'autres pays par des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est à ce moment-là que je trouve que c'est le passé qu'on a industriel en France, il mériterait vraiment d'être un peu au centre de l'histoire, quoi. Et peut-être ça nous aiderait aussi à imaginer le travail, comment produire les choses dans le futur, quoi. C'est un peu ça. Et moi, comme artiste, en fait, je me demande est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, en fait, aussi sur la question de commémorer, en fait, aussi. Et aussi, bien sûr, les luttes syndicales et toute cette histoire, en fait, qui, je me suis rendu compte récemment à quel point, en fait, tous les acquis sociaux viennent vraiment à la fois du communisme tout après-guerre, quoi, et du syndicalisme dans l'histoire, quoi. Et en fait, tout ce qu'on a de public et du domaine public vient vraiment de cette histoire, quoi. Donc, qui est très, très mis à mal, mais en même temps que je trouve vraiment précieuse, quoi. Moi, dans ma pratique d'artiste, je me retrouve plutôt en lien de concevoir comme une sorte d'auto-entrepreneur qui est en dehors de toute organisation de société, quoi. Et du coup, essayer de discuter avec Robert aussi de cette histoire, c'est ouais, de repenser à qu'est-ce que ça pourrait être, à quoi ça sert un artiste au fond. Il se trouve que là, il y a eu la résidence, cette résidence, en fait, c'est simplement cette résidence de Rotarex que je suis très content. Enfin, c'était donc à l'initiative de la direction. Donc c'était vraiment, je remercie pour l'idée et la proposition. Et tout. Et je me demande aussi si ça pourrait pas, ce genre d'initiative, être aussi... venir de l'autre côté, qui est un peu ce côté du syndicat, ou comment on pourrait faire, en fait. Est-ce qu'il y aurait des ponts Et on évoquait avec Robert est-ce qu'il n'y a pas des œuvres à imaginer qui seraient aussi des commémoration, enfin dans le style du monument et du souvenir, du coup, d'une mémoire ouvrière et de ses luttes, en fait, aussi. Et j'ai eu pas de réponse du tout, mais c'était pour l'évoquer, quoi. Parce que.
Ouais, bon. Donc, on a discuté un peu avant. Moi, j'ai des bouquins là-dessus. Il y a en fait commémoration des luttes, il y en a très peu, et quand il y a une réalisation sur le travail au 19e de manière extrêmement importante, Dalou et puis plein d'autres, des statues de paysans, d'ouvriers, de forgerons surtout, on en a plein les musées, enfin pas plein les musées mais plein les réserves des musées au moins, il y en a dans les squares à Paris. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, on ne fait plus de, on fait plus de statut d'ouvrier de maintenance, et, ni de coursier à vélo, et de chez Delevaux. Et sur les œuvres qui ont été faites sur le monde ouvrier, c'est essentiellement il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup moins, mais il y a beaucoup quand même de peintures qui ont été faites. C'est une exposition au musée de Caen. L'été dernier, on voyait des œuvres picturales sur le travail, mais des objets, des œuvres comme Antoine fait, moi j'en ai trouvé deux en tout et pour tout. C'est pas quelque chose qui s'est fait, alors c'est peut-être une ouverture, un créneau pour lui, j'en sais rien, mais en même temps, c'est je pense que c'est difficile. On a parlé de MBF en ce moment, ils vont être jugés mardi, ils n'ont plus qu'un repreneur, ils sont 300, ils risquent d'être à Pôle emploi. Ils n'ont pas forcément envie, on a des contacts, pas forcément envie de faire des statuts du travail, je ne sais pas. Mais la sculpture dans la commémoration, bon, on a parlé de Carmo dans le sud. Il y a une statue de Jean Jaurès, parce que Jean Jaurès, c'est une personnalité, il est venu soutenir la grève. Mais c'est une exception. Mmh. C'est pas mon...
Ouais, bien sûr.
C'est pas mon sujet. C'est de la perruque.
Ouais. Mais... Ouais, voilà, enfin, c'est... J'aimerais...
Est-ce que je peux ajouter...
Ouais, bien sûr.
Alors, je voudrais terminer, c'est par rapport à la fierté que peuvent avoir hommes et les femmes qui créent des choses, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils le font, et y compris la fierté des ouvriers d'une entreprise par rapport aux objets qui sont réalisés, même si ce n'est pas en péril.
Ouais, ouais.
Mais la fierté d'appartenir à une entreprise connue qui fait des produits qui ont un écho, et je l'ai senti ça dans l'entreprise Renault, les gens étaient fiers de dire je travaille à Renault Billancourt. C'était une fierté parce que il y avait qui était, je parle au passé, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre du tout que les gens qui travaillent chez Renault aient la même fierté que nous, on pouvait avoir dans les années 70, 80, 90, où on pouvait dire, ok, je suis dans l'entreprise. Donc, on était fiers. Les gens qui réalisaient des objets, que ce soit des hommes ou des femmes, il y avait cet aspect de création, y compris de plaisir de faire des choses pour eux-mêmes, mais aussi, parce que ça, tu ne l'as pas trop dit, mais pour les enfants. Les gens souvent faisaient aussi, pas seulement des outils pour eux, pour leur travail, mais aussi des objets pour les enfants, et qui étaient ravis. Et on a rencontré dans des rencontres des enfants de perruqueurs qui disaient, ils étaient fiers de voir que leur père était capable de réaliser des choses à la fois jolies et qui étaient agréables pour eux. Donc ça, c'est une chose. Et sur le deuxième aspect sur lequel je voulais dire un petit mot, c'est sur la mémoire. Pourquoi la mémoire est importante? Là, c'est une forme de mémoire, ces petits objets qui restent, qui sont la trace que le papa ou la maman a travaillé, que la maman a fabriqué une trousse à l'atelier des sièges, on fait les voitures, les sièges d'auto, on a fabriqué avec les morceaux de cuir qui tombaient de Sky, on a fabriqué des trousses au moment de la rentrée des classes. On est fiers de ça. Mais en même temps, la mémoire, c'est aussi l'histoire qu'on a vécue. Et je le dis, parce que simplement, on a pu voir une entreprise comme Renault Billancourt. Quand j'y suis rentrée, il y avait à peu près 30 000 personnes qui travaillaient encore dans les années 70, et elle a disparu.
Ouais.
Elle a disparu maintenant, il y a 25 ans. L'usine de Renault Billancourt n'existe plus. Si vous allez à Boulogne-Billancourt, vous n'avez plus rien.
Et rien qui le signale ou le... Rien qui le commémore, en fait. Enfin, ou le... Rien qui n'indique qu'il y avait une usine, là, 35
alors,
000 personnes.
Il y a très peu de choses qui restent et qui avaient subsisté pendant un temps, progressivement a disparu, et finalement, c'est englouti ici maintenant, enfin, ça a disparu complètement, ça a été détruit, démoli, et même le portail, si vous avez connu un peu l'histoire et que vous avez vu des grèves chez Renault, enfin, représentées avec des photos, il y avait la grande entrée qui allait sur l'île Seguin avec un portail, un fronton, et ce fronton devait être conservé, justement pour garder une trace. Puis finalement, il a été déplacé, fragilisé, et donc, eh ben non, il ne sera pas remis. On en fera un autre, bien sûr, qui commémorera, qui représentera, qui essaiera d'imiter ce, l'ancien, mais cet objet qu'on voulait garder comme trace de l'usine va disparaître également. Donc, la mémoire, c'était important, et j'en parle parce qu'on avait le souci, quand l'usine a fermé, et qu'on a vu qu'elle commençait à être détruite complètement, il faut garder une trace à la fois de ce qu'ont vécu les gens, pas seulement de l'histoire industrielle, c'est important, et l'entreprise a décidé de la conserver, mais de la mémoire des personnes qui ont travaillé dans tous les secteurs, que ce soit dans les bureaux, dans les ateliers, OS, ouvriers ou employés, cadres ou non cadres, parce que tout le monde avait cette fierté de travailler dans une grande entreprise. Et en fait, on avait, j'en parle d'expérience, puisqu'on avait créé une association pour qu'il y ait un lieu de mémoire permanent qui soit créé sur l'île Seguin. Je peux vous dire que maintenant, on n'y croit plus du tout. Parce que tous les projets qu'on avait remis au fil du temps, maintenant, ça, avec le temps qui passe, on n'est plus du tout sûr qu'il y aura quelque chose qui permettra de garder ce lieu de mémoire vivant qu'on voulait avoir. Certaines entreprises ont réussi à le faire, et nous, on n'a pas réussi. Et ça s'explique en partie parce qu'on est dans une ville. On a besoin de terrains, ils coûtent très cher, et on a construit des logements, des entreprises, des, pas des entreprises, mais des ateliers, des choses, des commerces, et pas, on n'a pas vraiment le souci de garder la mémoire. Et je pense que c'est important par rapport justement à cette, ce lien avec la
le bâtiment aussi, le bâti, enfin, l'architecture.
La porte de la place nationale, une place très célèbre, puisque c'est là où il y avait des meetings quand il y avait des grèves. Ils ont gardé la structure et ils ont construit. Ils l'ont gardé dans la construction d'un lycée. Il y a un lycée à la place.
Mais quand on pense à, en ce moment, les grèves aux fonderies de Bretagne et MBF, c'est tout à fait dans ce sens-là aussi, quoi. Parce que, en plus, je sais pas, Renault, ils ont eu plein d'aides de l'État là, pour la crise, et malgré tout. Malgré tout, ils servent de tout ça pour délocaliser encore. Je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais sous l'argument d'une baisse des marchés et de la, ils se servent de la situation pour délocaliser en fait des productions, quoi. C'est assez grave, c'est fou en fait. Enfin, je pense qu'ils ont reçu des beaucoup d'aides, des milliards d'euros d'aides pour faire face à la crise sanitaire et tout. Et finalement, ça ne les empêche pas de délocaliser encore la production pour améliorer les marges, quoi. Alors qu'il semble qu'il y a, peut-être d'autres alternatives, quoi. En fait, ces grèves-là des fonderies, je trouve que c'est. Bon, c'est vraiment aussi la question du travail, quoi. De qu'est-ce qu'on. Garder le travail, c'est-à-dire faire nous-mêmes les choses de nos vies, en fait, tout simplement, en fait. C'est. Que je trouve qu'il y a dans ce combat, en fait. De garder la production et de au-delà, bien sûr, garder les emplois, mais au-delà, c'est vraiment question de comment on fabrique le
société dans laquelle on vit, quoi. On a plus envie que ce soit qu'il y ait un morceau qui soit fait à un autre bout du monde et un morceau là-bas, et que ça. C'est pour ça que le combat aussi je trouve hyper actuel, parce que c'est aussi remettre en question la globalisation générale, quoi, du travail. Ça va dans ce sens aussi d'organiser l'oubli industriel en général de un pays, quoi. Enfin, et de laisser ouais, des mémoires mourir. Enfin, je sais pas, pas grand chose à dire là-dessus.
Est-ce que c'est possible le statut d'ouvrier qui n'est pas en phase avec le monde, en fait? Moi, je suis enseignante et j'ai des
Je crois qu'il y a, enfin, je suis sûr même qu'il y a une, depuis des années, c'est vrai, une dévalorisation du travail manuel. Oui. C'est-à-dire que bon, on met en valeur les connaissances dans le numérique, et je n'ai rien contre. Hein, on peut être tout à fait créatif avec un ordinateur, mais bon, j'ai pu visiter des centres d'apprentissage pour des jeunes gens, et c'était fonction de leurs résultats. Ils pouvaient pas choisir, on les orientait vers différents métiers selon leurs notes. Et donc les métiers, c'était à l'époque où on a parlé du plombier polonais, et on les orientait vers l'électricité qui est un peu compliquée, soi-disant, et la plomberie. Et la poubelle, vraiment, les gens qui avaient les plus mauvaises notes, c'était en métallerie. Or, ça devait faire de la peine, à moi et à Antoine, c'est un métier qui peut être extrêmement intéressant. Il y a de la forge, il y a du travail. En plus, il y a de l'embauche. Hein. Aujourd'hui, avec le sécuritaire, les gens ils font des portes blindées partout. Donc il y a du boulot. Mais c'était vraiment que les cancres, entre guillemets, qu'on envoyait en métallerie. Voilà, c'est ça la dévalorisation des métiers, et ça c'est la télé, les journaux, etc., qui en sont responsables. Et ça me désole autant qu'Antoine, mais...
Aussi, sûrement la rationalisation du travail, quoi, aussi l'automatisation... ce qu'on appelle les économies d'échelle, non ? C'est-à-dire que les travail est de plus en plus divisé, donc dans la production, il y a souvent, tu fais quelques gestes, quelques tâches, et ensuite la pièce...
Mais c'est vrai pour un certain nombre de métiers, de métiers non qualifiés. Il y a 15 jours, on était... chez Pinivuit, c'est une des plus grandes manufactures de céramique en France. Le travail des ouvrières n'était pas passionnant. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire une anse de tasse, elle est fabriquée. Et ensuite, il y a tout un atelier où les filles, c'est que des femmes, essuient à l'éponge l'anse pour qu'on puisse la monter. Et ensuite, il y a un autre atelier... où avec deux points de colle, on la fixe sur la tasse. Elles ne font que ça. Soit elles épongent, soit elles la collent. Alors que autrefois, je ne dis pas que c'était le paradis, mais chez les potiers, il y avait un métier qui s'appelait les anseuses. Et les anseuses, c'était souvent les femmes ou les filles des potiers. C'était beaucoup de l'artisanat. C'était le lendemain de la fabrication, c'était la femme du potier qui façonnait elle-même. Alors, c'est pas extraordinaire à faire, mais c'était quand même elle qui façonnait l'anse et puis qui la collait elle-même. Voilà. Maintenant, c'est une division du travail dont tu parles qui est assez affligeante. Mais même il existe toujours des métiers qualifiés. Moi, j'étais fraiseur, tu as travaillé sur le tour ou au fraisage. Il existe des ouvriers de maintenance qui travaillent sur des machines à commande numérique, mais ils ont mal payé, ils n'ont aucune visibilité sociale. Moi, j'étais effondré, j'ai acheté une cuisinière sur eBay près de chez Disney. Le gars avait un BP de technicien de maintenance et il faisait le Mickey. Chez Disney parce que je trouvais pas de boulot. On connaît un autre qui est dans les mêmes conditions, qui est éboueur à Montpellier parce que le boulot il leur plaît pas, parce qu'il y a des avantages quand t'es éboueur, tu finis tôt, tu veux faire un deuxième boulot après. C'est assez affligeant, sans compter que je sais plus où ça en est parce que le temps il passe vite, mais il y a une époque aujourd'hui, les métiers traditionnels comme fraiseur, dans le métal, fraiseur, tourneur, ajusteur, n'existent plus. Ni dans les entreprises, il y avait une école Renault avant, il y avait une école Citroën, il y avait l'éducation nationale, ça n'existe plus, ça n'est plus enseigné. Et on a moins besoin, bien sûr, parce que les fonderies, elles sont plus proches de la côte qu'avant, on a moins besoin d'ajusteurs, mais je sais qu'à la RATP, par exemple, ils ne trouvaient plus d'ajusteurs sur le métier. Il y a 10 ans, elle ne trouvait plus d'ajusteurs, elle est obligée de faire venir de transformer des compagnons en maîtres d'école pour apprendre aux jeunes l'ajustage, parce que ça n'existe plus, parce que l'éducation nationale a décidé que ça ne servait plus à rien, que maintenant on était dans la modernité, les machines marchaient toutes seules. C'est pas vrai. Il y a sûrement des gens qui peuvent confirmer ou infirmer ce que je dis, mais les machines ça ne marche pas toutes seules. Voilà. Et toute cette partie-là, on a discuté avec Antoine, il avait une phrase qui était jolie, qui disait Avant, les hommes fabriquaient des objets. Maintenant, c'est les objets qui fabriquent des hommes, tellement on est contraint par la modernité des techniques. C'est vrai en partie, mais il reste, j'en parlais en Chine, au Bangladesh, au Cambodge, les smartphones et puis les iPads, ils ne se fabriquent pas tout seuls. Il y a des millions, au dernier recensement, dans les années 80, il y avait 1,5 milliard d'ouvriers dans le monde qui travaillaient, alors qu'à l'époque il y avait une grande visibilité de la classe ouvrière au 19e siècle, il y avait en gros 100 millions entre les États-Unis et l'Europe d'ouvriers d'industrie. Aujourd'hui, on doit être autour de 2 milliards. Il y a très peu de chiffres, mais tout le monde s'en fout. On gueule parce que les chemises, elles sont pas chères et elles sont faites par des enfants, mais c'est vrai. Mais elles ne sont pas faites que par des enfants, elles sont faites aussi par des gens qui travaillent. Et puis, je prends l'exemple des chemises parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée, mais il y a forcément en Asie, même s'il n'y a aucun reportage, des gens très qualifiés qui font un travail très intéressant. La télévision s'en préoccupe pas. Voilà.
Ouais, c'est vrai, c'est juste, je trouve, d'imaginer que quand la classe ouvrière a grande visibilité, des syndicats forts, en fait, ils avaient 100 millions à travers le monde et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de visibilité, il y en a 2 milliards. Ouais, pour dire, ouais, je trouve que l'image, là, c'est...
Et beaucoup de ce
à quel point on ne voit pas en fait, cette réalité industrielle dans nos vies.
D'intellectuels disent que la classe ouvrière a disparu. Il ne faut pas pousser quand même. Alors, elle a diminué drastiquement en France, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas que la France. Il y a beaucoup d'ateliers qui restent en France. Je crois que c'est au maximum dans les années 70, c'était un peu plus de 7 millions, de 500 000, je crois, d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est 6 millions, donc c'est beaucoup moins. Ça reste une partie importante, mais à part le dire qu'ils votent pour le Front National, ce qui n'est pas vrai, parce que la plupart du temps, ils s'abstiennent, c'est le seul moment où on en parle. C'est le seul moment où on dit, oui, ils sont devenus cons, ils étaient communistes, maintenant ils votent pour le Front National. Mais c'est une vision journalistique qui n'est pas la mienne, quoi, parce que c'est pas le réel. Maintenant qu'il y ait beaucoup de rancune, d'aigreur, c'est sûr, c'est quand on a perdu son boulot. J'ai vécu cette époque-là aussi, c'est très difficile à vivre, à supporter, mais c'est tout ce qu'on montre, hein. C'est tout ce qu'on montre à la télé. Donc, si on parle de la proximité, à MBF, ils ont montré les gens qui se trimbalaient avec des bouteilles de gaz en disant « on va faire sauter l'usine ». Il y a peu de temps à la télévision, ils ne vont pas faire sauter l'usine parce que ce serait un drame pour eux, c'est un drame pour tout le monde. Il y avait une usine Metal Europe dans le Nord, il y a quelques années, où ils avaient pollué la rivière avec des produits chimiques et balancé des pelles mécaniques dans la rivière. En fait, c'était pas vrai non plus, et ils n'avaient pas pollué volontairement, c'était une partie avec des écluses qu'ils avaient. Voilà, mais c'est des gestes de désespoir. C'est ça qu'on montre, et après, on parle de beaucoup de choses, des suicides des agriculteurs, ce qui est un drame, des suicides des policiers, ce qui existe aussi, mais je ne connais pas une entreprise qui a fermé, où les gens n'ont pas été reclassés, où il n'y a pas eu des morts ensuite, quoi, rapidement. Et ça c'est partie des non-dits. Et bon, pour revenir juste à ça, cette volonté, ce que disait Emmanuel, de liquider un passé qui ne leur plaisait pas, bien court, il y a eu un article fort d'un artiste qui est très connu, qui s'appelle Jean Nouvel, qui a dit qu'il existe en Syrie un château qui s'appelle le Crac des Chevaliers, c'est un article dans Le Monde, pas dans une feuille de chou, et bien court, c'est le Crac des Ouvriers, et il faut le maintenir. Jean Nouvel ou pas Jean Nouvel, ils ont tout liquidé, et puis ils vont faire des cités musicales, il y a déjà une cité musicale.
Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi, maintenant, on se demande, des fois j'ai l'impression que l'art, il vient essayer d'embellir tout ça, une sorte de cosmétique sur toutes ces histoires sociales, enfin je sais pas. C'est pour ça que ça me renvoie aussi à moi, artiste, qui est dans ce système. Je sais pas s'il y a un lien direct, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent faire artiste, quoi, des jeunes. Quoi. Et en même temps, ils sont pris dans une histoire de... Après, on ne peut pas dire que c'est directement le capitalisme, parce que c'est beaucoup public, là, mais ça induit un rapport au travail étrange, quoi. Comme si on était privé de pouvoir travailler, de produire aussi les objets de nos vies, et du coup, on a besoin de l'art comme une sorte de substitut, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Enfin, c'est assez étrange, en fait. Comme tu dis, c'est des lieux industriels qui sont réappropriés par des artistes. Moi, je trouverais ça des fois encore plus beau, que ça redevienne des lieux de production un peu artisanal, en fait, tu vois, où là, au lieu de faire des œuvres, on commencerait à faire des tables, des choses, on essaierait de les vendre directement pour... Enfin, c'est pas une idée incroyable, mais une sorte de lutte aussi contre l'industrie géante, quoi.
Je voudrais ajouter quelque chose, c'est par rapport à la formation. Comme il y a un public assez féminin, j'aimerais ajouter un petit quelque chose par rapport à la formation dans les entreprises. Renault avait créé son école d'apprentissage en 1919, donc très vite il en avait besoin, et chaque année il y avait une formation entre 80 et 100 jeunes apprentis qui étaient formés, et souvent ils retenaient pas forcément les plus mal notés dans les classes, au contraire ils voulaient des élèves sérieux, compétents, et donc pour les former, et une formation comme l'a dit Robert qui durait 3 ans ou 5 ans de formation sur différents métiers. Donc ça, il n'y avait aucune femme qui l'avait, à qui on offrait la formation professionnelle pour devenir un ouvrier qualifié. C'est seulement en 1980, ça j'ai retrouvé des traces parce que j'ai cherché, où ils ont ouvert la possibilité à une jeune fille de venir pour préparer le brevet technicien. Et là, c'était ouvert aux filles. Ça a été, et après plus du tout de formation. Alors c'est pour montrer, ça c'était attirer l'attention par rapport à ça, parce que j'ai toujours vécu moi personnellement avec un regard particulier l'entreprise, je la voyais aussi avec les yeux de femme et pas seulement de travailler sur le nom. C'est important de se rendre compte que là aussi il y a des différences dans la façon de former, de concevoir comme la place et la transformation des entreprises, elle n'est pas seulement chez Renault. Il n'y a plus des écoles professionnelles, des entreprises ont été fermées. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont maintenues, je ne sais pas si Peugeot a maintenu la sienne, mais je ne crois pas.
Non, il n'y a plus d'école.
Il me semble que tout a été fermé, parce qu'on n'a plus besoin d'ouvriers formés autant sérieusement pour devenir des professionnels sur les métiers de qualifier. Et ça, c'est une chose où justement ce savoir-faire qui peut être utilisé, qui était utilisé, qui est toujours sur des œuvres ou personnelles ou pour les copains qui ont besoin, ou même, et parce que tu as parlé tout à l'heure de la tolérance qui était par rapport à la personne, mais c'est aussi parfois la hiérarchie, les responsables demandaient eux-mêmes aux ouvriers de dire: tiens, j'ai un petit ennui avec mon barbecue, là, est-ce que tu peux me faire une réparation? Est-ce que c'était de la complicité, même c'était une demande? Donc pourquoi c'était toléré? Parce qu'en fait, on pouvait aussi en bénéficier, quel que soit le niveau qu'on avait dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est important de montrer. Mais ce que je voulais mettre en valeur, c'est que cette qualification est extrêmement importante et qui pouvait être utilisée très créativement sur des objets, tu l'as dit, utiles, mais aussi déjouer aussi des objets d'art. J'ai vu des collègues de l'usine que je connaissais qui ont meilleurs ouvriers, aux meilleurs ouvriers de France, mais de moins en moins dans la population, dans les usines, on verra ce genre de, je dirais, ce que j'avais dit, de savoir-faire et de compétences, malheureusement, je crains.
Mais pour noircir la, la scène, si on a besoin, on parle sans arrêt aujourd'hui avec la reprise des restaurants, qu'il n'y a plus de personnel pour servir. Il faut voir les conditions de travail dans l'hôtellerie. Les gens, ils se sont barrés dès qu'ils ont pu, parce que c'est quand même des horaires insupportables, très compliqués, et puis avec des salaires très bas. Je prends deux autres exemples. On ne trouve pas de monde chez les poissonniers et chez les bouchers. Mais si vous avez vu un petit peu le boucher qui est dans la petite boutique, qui gère son entreprise, c'est à la découpe à Carrefour ou ailleurs, avec un danger extrême. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ils ont des gants comme au Moyen-Âge, avec en acier. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. Hein. C'est un métier très dangereux et qui est mal payé. Voilà, tout ça pour qu'on ait une petite découpe bien propre au supermarché. Donc, c'est aussi ça, c'est que ça c'est pour les non qualifiés, et pour les qualifiés, je parlais tout à l'heure des ouvriers de maintenance qui sont un métier qui est en pleine activité. Donc les gens savent à la fois faire marcher un tour, une fraiseuse, une perceuse, ils ont une qualification réelle, c'est après le bac pro. Et je suis tombé sur un jeune qui était le premier de son école, donc c'était un bon. Je lui demandais ce qu'il savait faire à la lime, puisqu'il n'y a plus d'ajusteur. Et les seuls qui liment un peu, c'est les ouvriers de maintenant. Et il m'a dit, bah, je sais les bavurer, c'est-à-dire retirer les bavures sur une pièce. Il saurait faire un ajustage, un mâle et une femelle qui s'emboîtent. Bon, il m'a dit non, ça c'est pas possible. Donc il y a des choses qu'on ne sait plus faire, voilà. Même chez des ouvriers compétents et qualifiés, parce qu'on a décidé que les machines, elles le feraient toutes seules. Je ne sais pas comment ils se démerdent hein, pour le faire quand même, parce qu'il y a besoin. Quoi. Voilà, mais il y a le travail manuel est plus valorisé du tout.
Oui, bien sûr. Ouais, du coup, est-ce que vous pensez que la revalorisation de ce travail et la revalorisation du statut ouvrier peut aller avec des décroissances? Parce que quand on pense aux ouvriers, on pense souvent aux grandes entreprises, et du coup, décroissance, il y a aussi de sortir du système des trop grosses entreprises.
Bah ouais, ouais. Produire autrement.
Comment vous voyez ça, cette relation entre les trois choses, le savoir, la revalorisation et le statut de l'entreprise aussi, quoi.
Est-ce que revaloriser le statut de l'ouvrier ou le savoir-faire aussi manuel, tu veux dire
ça? Oui, mais ça aide le père.
Ça peut aider à imaginer d'autres façons de produire, d'autres modèles de production.
Je ne sais pas. je ne sais pas, je suis dans une société donnée. L'idée de l'ouvrier dans les années 70, c'était encore quelque chose d'important dans la mentalité française.
Oui, on croyait encore au progrès, à la modernité,
voilà.
Et
à l'habileté manuelle, etc. Aujourd'hui, ça a disparu. Et moi, je ne suis pas un politique, ni un sociologue, ni un prévisionniste, donc je ne sais, je ne peux pas répondre à la question. Je pense qu'il faut revaloriser le travail manuel parce que c'est important, parce qu'on a besoin de servir de ses mains. Pour moi, c'est clair que la tête sur un ordinateur, ça ne suffit pas. On l'a vu avec le télétravail, les gens chez eux, au bout d'un moment, pour une part, il y en a qui sont très contents, pour une part, ils ne supportent plus d'être devant un écran tout le temps. Et je disais, alors ça peut ramener à un autre débat sur les frontières de l'art, mais les gens ont besoin de créer, et je ne sais pas comment ils font. Alors, ils se démerdent, hein, ils font des clafoutis ou du tricot. Le tricot revient à la mode, ça avait disparu complètement, et pourquoi pas. Mais c'est un besoin humain, je pense. Je ne sais pas sous quelle forme ça va réapparaître. Je le souhaite, mais je ne sais pas du tout. Peut-être avec les artistes qui vont passer dans les usines.
Ça me fait penser dans ma jeunesse, j'ai appris un chant qui était « Sois fier, ouvrier, ton toi, que deviendrait le monde. On chantait ça, on avait des jeunes de mon âge, et on avait pas honte de chanter ça. On trouvait que c'était.
Une chanson de 1936, quand même.
Oui, d'accord, mais je l'ai chanté. Je ne suis pas sûre que maintenant, ça serait tellement.
Ouais, je crois qu'ils étaient curieux, ils passaient voir, j'ai eu un peu toutes sortes de réactions, ouais, donc, que ça a plu, d'autres qui ne comprenaient vraiment pas, des choses, je pense, qui ont fait un petit effet aussi, parce qu'il faut imaginer aussi les œuvres dans l'endroit, en fait, dans l'entreprise.
Tu l'as prévu sur place?
Ouais, c'était surtout les rebuts, en fait. Vraiment très à partir de rebuts, des pièces aussi qui avaient un défaut de fabrication que je pouvais récupérer. Comme on voit là-bas, là, ces vannes là qui sont en fait elles ont un petit défaut de fabrication qui est invisible. Et après, comment ça s'est passé? Ben, ils m'ont aidé surtout parce que par exemple, pour utiliser le tour et la fraiseuse, je connaissais pas en fait, donc ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont montré et après. Échanges informels aussi ils montraient des choses qu'ils avaient fait en perruque, justement, ça s'est arrivé aussi, des petites sculptures où je, le plus intéressant pour moi c'était ces sculptures qui sont là, où en fait c'est aussi c'est vrai qui m'a aidé à, j'avais un peu l'idée des titres en fait, des noms, mais c'est lui qui m'a un peu donné l'idée de faire les petites plaques là avec les fonctions de chaque tête, et qui m'a aidé à entrer en contact avec la personne qui s'occupait des gravures laser. Donc dans l'entreprise, il m'a aidé à pouvoir avoir accès à une machine pendant une heure. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dans ces pièces, je sais pas si vous avez regardé, mais il y a un peu un esprit perruque, quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, en fait, c'est pas. Non, je fais pas de la perruque parce que j'ai pas de production la journée. J'avais pas de production obligatoire, donc difficile de faire la perruque. Mais c'est, je trouve, il y a une petite détournement en fait de l'outil et qui parle de. Et du coup, qui parle aussi de l'entreprise elle-même, enfin, qui raconte. Donc là, pour moi, la perruque, c'était aussi plus un esprit, en fait, dans lequel se... Enfin, je prends ça comme une espèce d'esprit de détournement et de... Ouais, de...
Mais elle doit jamais sourire, toutes ces pièces.
Je ne crois pas qu'elle sourit, vraiment, mais ouais.
Si, parce que ça n'a pas de visage, et bon, c'est pas du tout différent, mais ça humanise les pièces, vraiment, c'est...
Ouais, enfin, c'est entre l'humain et la pièce mécanique.
Produit la perruque dans l'exposition, finalement, notamment par le biais de la sérigraphie et de la photographie.
Ah oui, il y a la sérigraphie qui est en bas, c'est une œuvre faite en perruque, en fait, par justement un fraiseur-tourneur, et en fait, où il a récupéré une coque d'un détendeur de gaz et il l'a transformé en un petit visage et un petit clown. Et je sais pas ce qu'il voulait dire exactement en le mettant au-dessus de son poste de travail, un petit. À partir, ouais, une des pièces de la production détournée en petite figure, pardon.
C'est l'heure de se réveiller.
Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. Ça suffit, là. Ouais, donc là, c'est la pièce d'en bas, pour le coup, c'est vraiment une perruque, et là, c'est juste une photo que j'ai même pas fait moi-même, d'ailleurs. Vraiment rien fait dans l'œuvre. Pardon. Et donc il y avait ça. Après, c'est l'esprit, par exemple, je sais pas, justement, ces vannes là, c'est comment leur faire raconter autre chose. Je sais pas si ça peut être comparé à de la perruque, mais comment prendre un objet et essayer de lui faire pas lui le détourner, mais
Oui, comment lui essayer de lui faire raconter autre chose que ce qu'il est, et en même temps que ça raconte aussi sa nature industrielle, là. Du coup, c'est une sorte de corps...
C'est drôle, enfin, moi j'interviens très brièvement, mais quand nous, équipe, au premier rendez-vous, on est arrivé à Otarex, il y avait, sur la question de la mémoire et du rapport émotionnel, en fait, à la matière produite dans l'industrie, il y avait tous ces cartons avec tous les matériaux de revue de production, et on se remplissait les poches.
Tout, ça brille, ça a l'air de
marcher. Ça brille, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire des petits socles. Et du coup, il y avait ce rapport émotionnel à la matière, et finalement, on a tous plein d'objets chez nous. Alors, ça va servir de petits socles, je sais pas quoi. Moi, j'ai mis ça en fond de pot de plante, mais du coup, voilà, j'ai du laiton, j'ai du nox, j'ai du beau matériel. Et je trouve que rien que ça, dans le rapport émotionnel, en fait, des objets, même sans acte artistique voilà, poussé, il y a ce truc qu'on vient prendre en fait au sein de l'acte des choses et qu'on garde pour soi comme un petit caillou qu'on récupère sur la plage en fait. Et je trouve qu'il y a ce truc.
Ok.
Mais il y a côté aussi un côté, c'est assez fascinant aussi de rentrer dans l'usine et avec le bruit et toutes les machines. Les matières premières, ben c'est hyper impressionnant, c'est hyper grand. Quand t'es arrivé, Antoine, quand t'as la première visite, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tous ces postes, quand tu ne comprends pas qui fait quoi, tu passes d'un atelier à un autre, toi t'as plus le temps de découvrir toutes les étapes aussi, j'imagine, de la production qui a lieu.
Oui, au début, justement, je trouvais pas ça si bruyant. Et en fait, en restant, tu sens cette présence avec sa usine en permanence. Enfin, tu sens cette vibration continue, en fait. Non, je sais pas, Patrick. Enfin,
surtout l'usinage.
Surtout, ouais, un bruit de fond qui est comme ça présent, puis que tu ressens physiquement. J'ai fait quelques... Oui, j'ai pas... Après, c'est surtout des machines numériques là-bas que je n'avais pas accès, mais j'ai eu accès aux machines traditionnelles, entre guillemets.
Il y a un point quand même que je trouve intéressant par rapport au sujet qu'on a en fait. Il y a deux notions dans l'entreprise aujourd'hui, c'est la notion de créativité et la notion d'appartenance. Vous parliez tout à l'heure justement rapports ont évolué, que le sentiment d'appartenance à l'entreprise a changé. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une problématique de toute façon même pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que certes, il y avait une culture d'entreprise auparavant qui faisait qu'on appartenait à un groupe, mais de la même façon qu'on appartenait à une famille, de la même façon qu'on appartenait à un pays. Et ce délitement pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que certes, on peut se dire que la classe ouvrière est plus malléable, on en fait ce qu'on veut, sauf qu'il y a aussi un problème de maintenir les gens en place, de maintenir une culture, de maintenir un savoir-faire. Et ce qu'on oublie, c'est que la performance, ou du moins la production générale de l'entreprise, elle est aussi faite par le lien qu'il y a entre les différents individus. Et ça, c'est plus difficile à matérialiser. Et ce qui est assez évident, c'est que le Fordisme a été une grosse avancée industrielle, puisqu'on est passé d'un monde artisanal à un monde industriel productif. Sauf que quelques années après, on s'est rendu compte qu'on avait retiré complètement la substantifique moelle du travail, qui est quand même justement la création et l'intérêt qu'on pouvait avoir. Or, on le retrouve de toute façon aujourd'hui dans tous les postes, que ce soit ouvrier, que ce soit technicien, que ce soit cadre, on retrouve cette idée que lorsqu'on fait quelque chose et qu'on n'apporte pas de patte particulière, qu'on n'apporte pas de créativité à l'intérieur, le travail perd de l'intérêt, on y perd en assiduité, Et soit on ne fait plus rien, soit on s'en va. Donc cette notion de créativité, c'est aussi ce qui fait, ce qui redonne de l'humanité à la personne qui est dedans, ce qui lui permet de s'approprier les choses. Et l'appropriation, c'est aussi essentiel. C'est-à-dire qu'entre un poste de travail, par exemple, qui a été designé par un ingénieur, qui arrive en disant il faut faire ça, ça, ça,
c'est tout.
Et puis de l'autre côté, on a peut-être un ingénieur aussi, mais qui est venu en disant comment vous travaillez, de quoi vous avez besoin, on va construire ensemble. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui commence à modifier, avec les gens qui commencent à donner leurs idées, s'approprier, bah déjà on a deux mondes qui sont totalement différents. Parce que c'est pas, d'un côté c'est quelque chose où on vient faire ses œuvres, on n'appartient pas à ce lieu, parce qu'on nous l'a imposé, parce qu'on n'y a pas mis son âme, parce qu'on n'y a pas mis sa créativité. Et de l'autre côté, c'est un lieu qui est à notre image. On l'a fait, on y a participé, il y a un but. Et donc, cette notion de créativité, on le rapporte à toi, qui me paraît essentielle. Et l'autre élément, là je rejoins, quand on parlait de la perruque, il y a aussi un aspect social. Alors, bon, éviter de parler de tout ce qui est, quand il y a les excès, parce qu'il y en a. Mais, bien évidemment, quand on demande à quelqu'un de faire de la perruque pour réparer quelque chose, pour faire un petit truc parce qu'on a besoin, ou un petit objet, même sympathique. Mais c'est la base même de la culture et des sociétés. C'est qu'on crée du lien. Et lorsqu'on est, et il faut avoir l'honnêteté de le voir en face, lorsqu'on segmente l'entreprise de façon stricte en disant voilà, on vient pour faire tant d'heures, on est là de 8h à 16h, on a tel horaire, on a fait telle tâche. En effet, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de lien, et il n'y a plus rien qui tient. Et c'est-à-dire que les tâches qui ont été définies peuvent être faites. Mais aujourd'hui, on a besoin d'améliorer systématiquement, d'adapter, parce que les choses évoluent, parce que les contraintes évoluent, parce que les besoins évoluent. Et s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, c'est un peu comme un gaz, c'est-à-dire qu'on a beau le comprimer, si on enlève la bouteille, on a plus du gaz, il n'y a rien qui se tient. Parce qu'il n'y a pas de lien, parce qu'il n'y a pas de cohérence, parce qu'il n'y a pas d'esprit qui maintient tout ça. Et cette notion, parfois, de créativité, elle me paraît aussi intéressante, parce que ça crée justement ce lien, ce sentiment d'appartenance, cette réciprocité du don. Et on a l'impression de partir d'avoir autre chose qui nous lie, autre chose que le travail.
Je peux répondre, enfin, c'est adressé par moi, mais je ne connais pas la société, hein, mais c'est tout à fait possible que ce soit ce que vous dites, mais globalement, ce n'est pas le sentiment que j'en ai, c'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'on travaille mieux, j'entends bien ce discours, il est fréquent, qu'il faut travailler ensemble. Il y a un autre aspect, si on n'a pas ce lien-là, il y a la contrainte. Et la contrainte, ça existe, et il y a le chômage qui est derrière. Et donc, moi, je parlais de l'usine de céramique, Pilbivite, qui nourrit les tables des très grands restaurants parisiens. Bon, ça fait un moment que je suis retraité, même si je suis encore syndicaliste. Mais je pense que chez PSA, à Montbéliard, il n'y a pas un accord extrême avant de produire. Et puis les nouveaux métiers, c'est dans la classe ouvrière, c'est les coursiers, ouais. C'est Deliveroo, c'est Uber, etc. Franchement, j'ai pas l'impression, c'est pas une impression certain qu'il n'y a aucun lien entre eux, sinon la contrainte, en plus avec des, ou dans les entrepôts, en plus la contrainte maintenant elle est avec des machines, hein. C'est-à-dire que dans les entrepôts c'est pas un contremaître qui vient vous engueuler, mais c'est la machine qui est attachée au poignet et qui dit t'as mis trop de temps pour faire ce truc là. Donc il y a un discours qui est entendable et qui existe dans un certain nombre d'entreprises, je ne le nie pas, mais je pense que dans une grande partie des entreprises, la contrainte, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement pesante, et c'est le cas de beaucoup de nouveaux métiers. Alors, probablement pas dans les start-up ou des intellectuels, des ingénieurs qui travaillent. En plus, je ne connais pas ce milieu. Mais je sais que dans les milieux ouvriers, qui sont dans les grandes entreprises, c'est du travail fordiste tout à fait traditionnel. Et ça n'a pas disparu, je suis persuadé que ça n'a pas disparu. Et pour le Ce qui a augmenté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les auto-entrepreneurs, où il n'y a même plus de salariat. C'est-à-dire que ça, c'est un recul effrayant. On me l'a proposé dans le temps quand j'étais gardien de nuit, de faire ma propre société tout seul. Et ça veut dire plus de sécurité sociale, plus d'avantages sociaux, plus de syndicats. Auto-entrepreneurs, et c'est le cas de centaines ou de milliers de gens qui vous apportent les pizzas à domicile.
Il y a beaucoup d'entreprises maintenant, les agents de mobilité, ce sont tous des auto-entrepreneurs.
Donc là, on est loin du modèle qui avait été présenté, quoi, qui est travailler ensemble. C'est... En plus, quand on a
la société, les gens sont plus individuels maintenant qu'ils étaient.
Mais ça, c'est aussi tout le... pour la culture du.
Est-ce que c'est une évolution normale? Je ne sais pas. Enfin, parce qu'on l'a pas vu. Parce que, y compris le télétravail qui s'est développé, les séparations dans le bureau, même dans le bureau, quand on travaillait, c'était. Il y a des choses. Il y avait plus cette unité que j'ai connue au début quand j'ai travaillé, où on avait des occasions, des opportunités entre nous, de pouvoir, y compris fêter un petit événement et tout ça, et ça, progressivement, ça a disparu. Bon, je ne sais pas comment elle vit maintenant dans les entreprises, mais ce lien pour appeler, là, il existait, il y a même des gens qui l'ont vécu alors qu'ils avaient des conditions de travail pas forcément satisfaisantes. Les OS qui étaient sur Mitsegain à Renaud-Billancourt, quand on parlait justement de l'histoire qu'il fallait rappeler, la mémoire et tout ça, ils disaient, mais bon, c'était comme une famille. Vous avez employé, il y a des dizaines même. Et pourtant, ils avaient des conditions de travail pas forcément réjouissantes. On ne leur permettait pas de se former, on ne leur permettait pas d'évoluer. C'était des OS à vie, en fait, tant qu'ils étaient là, ben, OS tout le temps. Mais ils avaient quand même le sentiment d'appartenir à une communauté, à une entreprise où ils avaient. Et ça ne veut pas dire qu'ils se sentaient tous solidaires,
Et c'est aussi parce que Renault, c'était un symbole français. On voyait les voitures partout. On voyait tout de suite le fruit de son travail, en fait. Et alors que la mondialisation a fait que c'est aussi ça que tu ne reconnais plus dans une. Tu ne vois plus le fruit directement. Après, je vois Rotarex, je pense que les gens étaient contents d'avoir aussi fait. Enfin, d'avoir aussi produit plein de pièces de respirateurs à un moment de. Ouais, il y a quelque chose de. Bah, où on se sent utile, mais. Mais à travers la sous-traitance et la dislocation, quand même, tu vois plus. Tu vois plus le produit de son travail directement, ou si c'est exporté et que ça sert à quelqu'un d'autre qui. C'est peut-être aussi ça le problème de perte d'appartenance.
C'est l'histoire.
Peut-être qu'on peut poursuivre la discussion.
Informellement, il faudra
jouer.